Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Arrivé aux abords de Jérusalem, Jésus, voyant la ville, pleura sur elle. Chers fidèles, tâchons de méditer quelques instants sur cette scène de Jésus pleurant sur Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux qu'eut lieu cet épisode. Notre Seigneur venait d'être acclamé triomphalement par la foule. Lui qui s'était toujours refusé à ce genre de triomphe l'avait provoqué en ce jour, parce que le moment approchait où il allait confesser devant le Sanhédrin qu'il était le Messie et le vrai Dieu, sauveur du monde. Il permit donc au peuple de le saluer comme tel. Mais il voulut aussi que ce soit avec un équipage des plus humbles, monté sur un ânon, pour ne pas donner prise au faux messianisme des Juifs qui avaient détourné le sens des prophéties et attendaient un Messie conquérant qui allait les aider à dominer le monde. Et voilà qu'arrivé devant Jérusalem, Jésus se mit à pleurer sur la ville. Si tu connaissais, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, ce qui te procurerait la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. La ville était magnifique avec ses palais, ses remparts, dominée par le temple ruisselant d'or, splendide comme il n'avait jamais été après la restauration d'Hérode le Grand. Mais si la Providence avait permis une telle gloire, c'était pour que le temple accueille celui que les prophéties annonçaient depuis des siècles. En ce jour des Rameaux, au milieu même de son triomphe, notre Seigneur savait que quelques jours plus tard, cette foule réclamerait au contraire sa mort. Grâce au prophète Jérémie, à ses lamentations que l'Église nous fait chanter le Vendredi Saint pendant l'adoration de la croix, nous savons ce que notre Seigneur éprouva à ce moment, en pensant à son peuple qui l'avait entouré de temps de prévenance et qui allait le crucifier. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Est-ce que parce que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte que tu as préparé une croix pour ton sauveur? Je t'ai guidé dans le désert pendant 40 ans, je t'ai nourri de la manne, je t'ai introduit dans une terre de richesse. Que sais-je dû faire de plus pour toi et que je n'ai point fait? » Notre Seigneur pleure sur Jérusalem à cause de ses fautes, de son ingratitude, mais aussi à cause des châtiments qui fondront sur elle à cause de son déicide. La miséricorde infinie de Dieu voudra attendre encore 40 ans, c'est long, 40 ans pour laisser aux Juifs le temps de se convertir à la prédication des apôtres. Et il y en eut en fait des milliers qui embrassèrent la religion chrétienne et de nombreux prêtres du temple. Mais les autorités religieuses se raidirent dans leur orgueil et elles déclenchèrent la persécution contre les premiers chrétiens. Nous avons fêté il y a quelques jours le martyre de Saint Jacques le Majeur, premier évêque de Jérusalem. Lorsque la sagesse infinie qui sonde les reins et les cœurs constata qu'aucune conversion n'était plus possible pour le moment, alors elle laissa la justice prendre la place de la miséricorde. Et ce fut terrible. Notons bien sûr ici, et l'on peut dire la même chose au sujet des damnés, ce sont les pécheurs qui sont la cause de leur perte. Jusqu'au dernier moment, une grâce leur avait été offerte qui les aurait sauvés, quel que soit leur crime, s'ils n'y avaient résisté. Mais le bon Dieu ne veut pas sauver les hommes malgré eux. L'historien juif Joseph, qui a assisté à la prise de Jérusalem, raconte qu'avant la catastrophe, des signes annonciateurs avaient paru dans le ciel. Que Titus, général de l'armée romaine, envoyé pour calmer la révolte des Juifs, leur avait fait plusieurs propositions de paix. Mais à l'intérieur de la ville, trois factions rivales se livraient des combats meurtriers et refusaient la paix promise, malgré la famine horrible qui frappait les habitants à cause du siège. Alors ce fut l'assaut. Tout ce que notre Seigneur avait prédit se réalisa à la lettre. « Viendra sur toi des jours, avait-il dit, où tes ennemis t'environneront de tranchées, où ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te renverseront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Les survivants furent crucifiés. Si nombreux, dit Joseph, qu'il n'y avait plus de place pour les croix autour de la ville, ni assez de croix pour le supplice. Terrible retour, cette forêt de croix. Terrible retour du crucifiement du Fils de Dieu 40 ans plus tôt. Le siège et la prise de Jérusalem par les soldats romains sont le siège et la prise d'une ville les plus sanglants et les plus meurtriers de toute l'histoire du monde. Proportionné évidemment au crime suprême, au crime du déicide. La religion de l'Ancien Testament était définitivement abolie. La religion juive actuelle n'en est pas la continuation. Dans l'Ancien Testament, tout était centré sur le temple de Jérusalem et les sacrifices d'animaux qui y étaient offerts pour préfigurer l'unique sacrifice du Fils de Dieu qui sauverait l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, plus de prêtres, plus de sacrifices, plus de prophètes. Personne ne peut même savoir de quelle tribu il est issu. Et c'est l'Église Nouvelle Israël qui a hérité des promesses faites à Abraham et aux prophètes et qui attend la conversion des Juifs annoncée par saint Paul pour la fin des temps. Et si leur perte a été l'occasion de la conversion des païens, continue saint Paul, que sera leur retour, sinon une résurrection pour le monde? Car ils sont les branches naturelles de l'olivier, aujourd'hui certes tombées, tandis que nous, nous avons été pris d'un olivier sauvage pour être greffés sur le tronc à leur place. Que sera-ce alors lorsque les branches naturelles seront replacées? Et ils dépasseront une multitude de chrétiens. Mais attention à nous. Ne t'enorgueillis pas, mais crains, nous dit saint Paul. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera peut-être pas non plus. Aujourd'hui, c'est sur les chrétiens que pleure notre Seigneur. À Parelmonial, Jésus a montré son cœur environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que lui faisaient nos péchés. Son message n'ayant pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir, notre Seigneur nous a envoyé sa mère. Du Los à Fatima, il est frappant de voir que la Vierge Marie apparaît toujours avec un visage empreint de tristesse, ne cessant de demander qu'on arrête d'offenser son Fils par nos péchés. À La Salette, elle apparaît en pleurant. Elle annonce que l'Église sera éclipsée, que Rome perdra la foi et finira par devenir le siège de l'Antéchrist, et qu'il y aura de grands châtiments si l'on ne se convertit pas. Nouvelle manifestation de la douleur de Notre-Dame à Syracuse, en Sicile, en 1953. Une statuette en plâtre du cœur immaculé de Marie, dans un quartier ouvrier de la ville, pleurant pendant plusieurs jours et accomplissant des miracles. L'analyse des larmes a montré qu'il s'agissait de larmes humaines. Notre-Dame a encore pleuré en 2003 au Carmel de Coimbra où était sœur Lucie de Fatima. J'étais avec elle dans le cœur, dit sa supérieure, pour la prendre en photo auprès d'une statue du cœur immaculé de Marie que l'on nous avait offerte peu avant. La photo prise, sœur Lucie continua à regarder la statue. Je ne la dérangeais pas. Se tournant vers moi, elle me dit alors avec angoisse, « Notre-Dame pleure. » Dans sa simplicité, elle crut que moi aussi j'étais en train de voir la même chose. Je respectais son émotion. Je préférais ne pas poser de questions. Comme l'on ne tient pas davantage compte des demandes de Notre-Dame de Fatima que de celles du Sacré-Cœur, que les hommes d'Église continuent dans leur aveuglement et que le monde s'écarte de plus en plus de Dieu avec toutes ces lois abominables encore quelques jours, il y a quelques jours, ne faut-il pas voir dans les derniers événements actuels d'ultimes avertissements du ciel? Notre-Dame de Paris, le cœur de la France fille aînée de l'Église, en flammes l'an dernier, au début de la Semaine Sainte. Cette année, le culte public interdit sur presque toute la surface de la Terre, pendant plusieurs mois, incluant la Semaine Sainte et Pâques, ce qu'on n'avait pas vu depuis l'édit de Constantin donnant la liberté à l'Église en 313. Il y a quelques jours, c'est la cathédrale de Nantes qui brûlait, et peu après, un incendie qui a été arrêté de justesse à la cathédrale de Rennes. Nous ne sommes pas prophètes, et il serait imprudent de faire des prédictions sur l'avenir proche. Il vaut mieux vivre au jour le jour. Nous rappelons que si des temps d'épreuve doivent arriver, Dieu exercera une providence spéciale à l'égard de ses enfants, ne permettant pas qu'il leur arrive quoi que ce soit qui compromette finalement leur salut, dit saint Thomas d'Aquin. Et il cite ici saint Paul, disant que pour ceux qui aiment Dieu, tout coopère à leur bien. Attention cependant, saint Thomas ne dit pas que les souffrances, les persécutions seront épargnées aux justes. Notre Seigneur a annoncé d'ailleurs clairement « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Saint Thomas enseigne ici, premièrement, que Dieu ne permet pas qu'il arrive quoi que ce soit aux justes contre eux qui compromettent finalement leur salut. Deuxièmement, que tout ce qui pourra être fait contre les justes tournera à leur avantage, c'est-à-dire que Dieu leur donnera des grâces exceptionnelles, proportionnées, pour tout supporter. Grâce qui leur prépareront dans l'éternité un bonheur encore plus grand que s'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves. Cependant, que les événements actuels nous soient un avertissement, alors qu'il en est encore temps, pour nous demander si notre Seigneur et notre Dame ne pleurent pas aussi sur nous. Regardons autour de nous dans ce monde, que notre prière ne soit pas celle du pharisien de la parabole. « Oh Seigneur, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Si nous voyons peut-être plus clair que beaucoup dans la crise actuelle, ne perdons pas de vue que c'est une grâce et que de cette grâce, il nous sera demandé compte. Est-ce que nous profitons de tout ce que nous avons reçu pour être plus saints? Ou est-ce que nous vivons une petite vie tranquille de tiédeur? Les temps actuels nous sont une incitation à faire un sérieux examen de conscience. Quelle est vraiment notre vie de prière? Comment assistons-nous à la messe et comment communions-nous? Est-ce que nous nous confessons fréquemment? Comment combattons-nous les tentations? Sommes-nous généreux pour offrir la pénitence de nos devoirs quotidiens? Que loin de les faire pleurer, nous travaillons au contraire à consoler les cœurs de Jésus et de Marie, alors nous n'avons pas à nous inquiéter de l'avenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.